m'appelle Thomas de Pourquerie et je suis musicien.
On va commencer quand même par une chose qui est assez exceptionnelle, c'est ta date de naissance. Le 7 juillet 77. 7-7-7-7. Comment tu le vis ça?
C'est un bonheur. Ça me porte chance depuis toujours. Le 7 est un chiffre pour bonheur. Non, je félicite ma mère régulièrement.
Mais est-ce que, parce que c'est un côté un petit peu karmique presque, est-ce que ça a eu une influence sur toi ou pas?
Oui, clairement. Très clairement. Encore une fois, ce chiffre m'a toujours porté bonheur et j'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en te demandant quel genre d'adolescent tu étais.
J'étais un ado pas très heureux, c'était un peu de pire en pire d'ailleurs. J'ai fini vraiment très très mal vers mes 17 ans, 17-18 ans. J'étais vraiment grosse dépression, très mal dans ma peau. Jusqu'à 16 ans, on va dire que ça allait à peu près, enfin, c'est un peu dégradé. Et jusqu'à un jour où en fait je suis allé écouter Stefano Di Battista, qui est un grand musicien, un saxophoniste italien, qui a été alors inconnu en France, tout jeune, qui débarquait à Paris. Et j'arrive dans une cave, un club de jazz, Sunset, rue des Lombards à Paris, et sans savoir ce que j'allais voir. J'étais déjà musicien, mais vraiment sans grande conviction, un petit peu, ça m'amusait, mais pas plus que ça. Et là, carrément, ça m'a sauvé la vie, totalement. Ça a été une révélation extraordinaire. À chaque fois qu'il a joué, donc dans les clubs de jazz, on joue 3 sets, 3 fois 1 heure. Pendant les 3 sets, c'était comme une lance d'énergie qui me rentrait dans le plexus et qui m'infiltrait tout le cœur, le corps, l'âme. J'ai pleuré comme un nouveau-né. Tout ce concert, c'était une lance de feu, d'énergie, une merveille qui s'emparait de moi, quoi. C'était un truc absolument dingue. Et dès le lendemain matin, ma vie avait un sens. Ouais, ça c'est c'est peut-être la plus grande chance que j'ai eue de toute ma vie. C'est extraordinaire, voilà. The sound of joy is enlightenment. Space flight, truth is enlightenment. Space flight, sometimes it's music. Strange mathematics. J'avais des potes, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de rugby aussi, donc j'avais mes copains du rugby. Après j'étais assez tourmenté, j'ai fait un peu des conneries. J'ai mis le feu à une poubelle et en fait un pilier a pris feu, enfin c'était un délire. Mais bon, j'ai pas du tout voulu foutre le feu à mon bahut, mais je ne l'ai pas fait d'ailleurs, il n'y a pas eu de soucis, hein, mais tout le monde a eu très peur. Et puis voilà, et puis j'avais des soucis, des peines de cœur. C'était très, très, très compliqué, donc je suis parti, on m'a envoyé à la campagne, loin de Paris, pour passer mon bac. Et quand je suis arrivé en Normandie, ça a été, moi qui ai vécu toujours en banlieue parisienne ou à Paris, donc dans le béton, quoi, on va dire, milieu urbain, de découvrir la campagne, Mortagne-au-Perche, et des gens très calmes, très cool, des gens merveilleux, des gens qui restent aujourd'hui de grands amis. Ça a été très fort aussi. Voilà. Ça s'est fait à peu près au même moment que, enfin, la rencontre avec Stefano, c'était juste avant. Et voilà. Et le fait d'ensuite me retrouver en Normandie, ça a été très fort. Ça a été très fort.
Alors justement, on y vient effectivement, parce que voir un concert de Stefano, c'est une chance, et c'est une chose. Le rencontrer et qu'il devienne ton mentor, c'est une autre. Comment ça s'est passé?
Encore une fois, il était vraiment inconnu. Donc voilà, il avait, il avait 30 ans, quoi. Moi, j'avais 18 ans, 17 ans. Et donc, j'allais le voir. Je faisais le mur, je sortais, j'allais l'enregistrer, j'enregistrais les concerts, je relevais ses solos une fois revenu chez moi. Et puis, un jour, je suis allé le voir. Enfin, il voyait qu'il y avait un gamin qui était là, qui venait à tous les concerts. Et je le saluais. Et puis un jour, je suis allé le voir en lui disant, vous savez, je connais vos solos par cœur, etc. Donc il était intrigué. Et puis c'est un être humain délicieux, quoi. C'est vraiment... Et à l'époque, il était très 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 accueillant, donc il m'a tout de suite dit bah viens, passe chez moi, on fait de la musique. Et puis on a passé une après-midi comme ça, je me souviens, je suis arrivé à 14h chez lui, je suis reparti à minuit, et on a fait de la musique en regardant la télé toute à la cool comme ça, et en mangeant des pâtes qu'il préparait régulièrement pendant la journée. C'était assez dingue, voilà. Il regardait la télé, des films, des sitcoms, enfin de tout. Tout en travaillant. Et puis il me disait, tiens, on va faire ça, allez, hop. Et puis, non, regarde. Et on faisait plusieurs choses en même temps, comme ça, enfin la musique en faisant d'autres choses. Et ça, c'était dingue. En tout cas, il m'a accueilli à bras ouverts. Et puis, ça a été, voilà, je l'ai vu régulièrement. Et puis surtout, j'allais l'écouter, je relevais sa musique.
Donc on va revenir un tout petit peu en arrière, en fait, au moment où ça a commencé, la musique pour toi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique et, en l'occurrence, à choisir le saxo ?
Eh bien, je voulais faire la musique. Mon papa était pianiste. C'était pas son métier, mais voilà, il jouait beaucoup de musique depuis que mes parents étaient séparés. Ils sont séparés quand j'avais 8 ans. Et donc, une fois qu'ils étaient séparés, il s'est remis à jouer du piano. Donc j'écoutais beaucoup de piano. Et j'avais envie de faire de la musique et de souffler dans un tuyau, quoi. Je voulais faire de la trompette ou du sax, mais surtout de la trompette. Et donc on allait au magasin de musique pour louer une trompette. Il n'y avait plus de trompette, mais il y avait un beau saxophone. Et je n'ai pas voulu attendre qu'une trompette revienne. Et j'ai dit non, tant pis, je vais faire du sax. Donc je me suis mis au sax comme ça.
J'adore ces hasards qui déterminent parfois des destins.
C'est que ça, hein. La vie, c'est que ça.
Est-ce que, du coup, ton adolescence et ton parcours, ça a influencé ton parcours artistique ?
Bah oui, clairement, puisque à la fin de l'adolescence, quand j'ai rencontré Stefano, ça a été un bouleversement. J'ai su que je voulais être musicien à ce moment-là. C'est assez fou d'ailleurs quand j'y repense, c'était tellement évident que c'était très clair, mais c'est vrai qu'avec un peu de recul dessus, c'est étonnant, quoi, de se rendre compte de cette chance-là.
Et est-ce que ça s'est accompagné d'une formation, d'une école, ou comment ça s'est passé du coup ?
Après, donc on a investi un lieu, un squat avec plein de copains avec lesquels je joue encore, qui sont toujours ma bande de frères et sœurs de musique, à Montmartre. Donc moi j'encourage tous les jeunes musiciens à investir des lieux, à aller squatter des endroits inhabités et de faire de la musique tous les soirs. C'est ce qu'on a fait et c'était fabuleux. Et ensuite je suis rentré au conservatoire de Paris avec les copains de notre squat. On a préparé le concours, c'est une histoire assez marrante, mais et on a préparé tous ensemble et on est presque tous rentrés au conservatoire. Et au conservatoire, évidemment, on a appris des choses fabuleuses. On a eu la chance d'avoir des professeurs super et c'était génial aussi. Mais l'école de la rue, entre guillemets, est beaucoup plus concrète. L'essentiel de mon boulot, c'est de développer mes groupes et il y a des rencontres de temps en temps qui sont très cool. À chaque fois, voilà, avoir la chance de rencontrer des gens, mais c'est aussi super quand ça reste quelque chose d'éphémère. Donc voilà, il y a des collaborations de temps en temps et le reste du temps, j'essaie de développer mes projets un maximum, d'essayer de les faire jouer. Mais c'est vrai que je jouais dans plein de groupes en tant que sideman, c'est-à-dire en tant que musicien dans des groupes dont je ne suis pas le leader, avec le méga octet d'Andy Hamler notamment. Enfin, plein de musiciens que j'aime énormément. Enfin bref, voilà, je jouais dans plein de groupes et tout en continuant à faire ma musique, notamment le DPZ avec Daniel Zimmerman, c'était notre groupe à tous les deux. Et j'ai eu envie à un moment prise de conscience de quand tu veux faire ta musique, à un moment il faut s'en donner les moyens, c'est-à-dire il faut juste avoir le temps. Et donc arrêter ce que tu fais à côté pendant un moment, voilà, privilégier un groupe. Je me sens plus un rocker qu'un jazzman dans le sens où j'aime mon groupe, les gens avec qui je joue et j'ai envie de m'occuper d'un groupe et voilà.
Et donc, du coup, Supersonic.
Et Supersonic est né en 2011 avec une volonté de jouer la musique de Sun Ra au début. Et puis, quelque chose d'assez miraculeux, c'est l'alchimie qu'il y a eu entre tous les musiciens que j'ai réunis. Ce qui est une immense chance. Je me doutais que ça pouvait être cool, mais on a tous été pris au trip de la chimie qu'il y avait entre nous, de la complémentarité. Et voilà, c'était fabuleux. C'est une belle aventure qui dure depuis 7 ans maintenant. Je touche du bois, c'est un bonheur.
7 ? T'as dit 7 ?
7, toujours le 7. Et quand ça fera 8 ans, ça fera 7 ans plus 1.
Mais justement, est-ce qu'il reste un petit peu de l'adolescent que tu étais dans l'artiste que tu es devenu ?
Je crois que le jour où je serai plus adolescent, je serai mort. J'arrêterai tout, en tout cas. Je pense que c'est vital de rester adolescent, de rester rempli de ses rêves. D'avoir des rêves tellement grands qu'on puisse leur courir après toute notre vie. Parce que c'est cette route-là qui est en soi... incarne le bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le fait d'avoir des rêves, c'est déjà gagné. Ça veut dire qu'on va les poursuivre et puis de temps en temps, on va réaliser une petite partie. On en réalise souvent de différentes manières et souvent, c'est pas ce à quoi on s'attendait, mais c'est souvent beaucoup plus surprenant et encore mieux. Voilà.
Je pense aussi à ça. Est-ce que les valeurs du sport, ça a aussi aidé un peu à sauver quelque chose ?
Oui, clairement. En tout cas, c'est pareil, le sport en tant que tel. Moi, j'ai fait beaucoup de rugby et c'était très semblable à la musique. De rentrer sur un terrain au début d'un match, c'est comme rentrer sur scène au début d'un concert. Il y a quelque chose de fort, le trac, le présent qui s'empare de vous. C'est extraordinaire.
Juste avant de finir avec un conseil pour les ados, la performance qui a eu lieu à Marseille à l'ouverture des 5 continents a été assez magique puisqu'elle s'est vue rajouter des musiciens locaux, des chœurs locaux, qui a donné une puissance aussi à la performance. Simple forces, simple forces, simple forces. Comment tu l'as vécu ? Qu'est-ce que tu voulais donner avec ça ?
Ça restera un immense souvenir pour nous, ce concert. C'est des rencontres humaines déjà, tout simplement. Étant musicien, c'est fabuleux. Et en l'occurrence, de bosser avec ces chorales et ces soufflants, qui étaient 50 chacun, donc il y avait 100 personnes en plus de Supersonic sur scène. C'était extraordinaire. On a partagé cette musique. C'était très simple. On leur a fait apprendre 3-4 morceaux. Et puis on a bossé très bêtement et méchamment, répété pour bien que tout le monde connaisse bien toutes ces parties. Et puis on s'est régalé le jour du concert, quoi. Et c'était comme Iron Man un peu, c'était supersonique avec une bionique avec des tentacules géantes. Et c'était extraordinaire. Et puis encore une fois des rencontres humaines très fortes. Ouais.
Merci d'avoir fait partager ça en plus pour l'ouverture des 5 continents avec cette scène locale, c'était vraiment chouette en tout cas.
C'était aussi une idée de Hugues Kieffer et du Festival des 5 continents que je remercie encore 1000 fois au passage parce que c'était un bonheur de répéter et ce concert, cette soirée qui restera gravée dans nos mémoires, c'est un grand, grand kiff.
Et alors pour finir, est-ce que tu aurais un conseil ou un message pour des adolescents qui justement soit se chercheraient et pourraient se trouver dans la musique, soit déjà commenceraient à pratiquer de la musique et...
Moi je leur dirais de suivre leurs rêves. Si un rêve s'empare d'eux, de surtout les suivre. Surtout suivez vos rêves, suivez ce qui vous fait vibrer très très clairement. Parce que on peut se planter dans la vie. On peut se faire virer d'un métier qu'on supporte pas faire, faut se dire ça. Donc autant se donner la chance de faire quelque chose qu'on aime par-dessus tout. Il y a aucun risque à suivre ses rêves. Faut y aller, faut croire en sa bonne étoile et puis de pas baisser les bras. Il peut y avoir des périodes de grand désespoir, de grand malheur, très difficiles, mais que la roue tourne. Comme la terre tourne, le soleil tourne. Et les jours se succèdent et les malheurs aussi, malheureusement, mais les bonheurs aussi. Et donc, il ne faut jamais oublier que plus on va toucher le fond, plus on va rebondir. De jamais baisser les bras, surtout.
Merci beaucoup.
Non, merci à vous. Merci à vous.